Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Comment est-ce qu'une communauté chrétienne fonctionne? Comment ça marche? Mode d'emploi. C'est pas compliqué, ça se trouve en Matthieu chapitre 18. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas tout, mais dans l'évangile de Matthieu, vous avez 5 enseignements clés. Il y a le sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7. Ensuite, vous allez avoir l'envoi en mission au chapitre 10. Les paraboles au chapitre 13 par rapport à qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Ensuite, le chapitre 18, comment est-ce qu'une communauté fonctionne? Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble? Et vous allez voir, il y a tous les éléments dans ce chapitre 18. On va voir un grand nombre d'éléments et on va laisser pour la prochaine prédication qui aura lieu dans 2 semaines un élément d'une importance capitale qui s'appelle le pardon. Et bien paradoxalement, c'est un des enseignements qu'on connaît le moins bien, parce que la notion de pardon est souvent mal comprise. Et c'est d'une puissance spirituelle incroyable, le pardon. Ça permet de renouveler ce qui est abîmé, et finalement, c'est un des fondements que nous verrons, alors ça sera dans 2 semaines. Nous allons déjà voir les 4 premiers fondements, les 4 premières histoires, mais pour commencer, j'aimerais commencer par une prière. Seigneur Jésus-Christ, tu nous connais, tu vois nos imperfections, tu vois combien nous avons encore besoin d'apprendre de toi. Et ensemble, nous voulons nous tourner vers l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, dans lequel tu nous enseignes des fondements importants pour ce qu'est une communauté. Apprends-nous, Seigneur. Permets que je puisse partager des choses qui viennent de ta parole, pour que tu nous enseignes, moi-même et d'autres, et chacun ici présent, afin qu'ensemble, nous apprenions toujours mieux à vivre ce à quoi tu nous appelles, cet amour plein de vérité, cette vérité pleine d'amour, cette grâce, cette sainteté à laquelle tu appelles chacun de tes enfants. En ton nom, nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chapitre 18. Le titre qui a été dans le graphique, c'est « Grandeur et miséricorde ». Les chapitres, les disciples, eux, ils se préoccupent de quoi?
De la grandeur.
De la grandeur. Jésus va se préoccuper de quoi? De la miséricorde. Quand dans une société humaine, on se préoccupe d'honneur, on est toujours prisonnier parce qu'à un moment donné, ça casse. Parce qu'après, on va se comparer. On va savoir est-ce que je suis plus élevé que tel autre en honneur. Et Jésus, à chaque fois, répond de la même façon. Humilité. C'est pas quelque chose que vous voulez... Ce que je dis, des fois, on a un évangile du degré niveau zéro. L'évangile du niveau zéro, c'est les autres devraient écouter ça. Vous avez déjà vécu ça? Vous lisez un texte biblique, puis vous dites, ça c'est pour un tel. Ça c'est pour tel autre. Et Jésus, à chaque fois, il nous dit, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun de nous ces textes. Tant qu'on essaye de se renvoyer les textes de l'Évangile comme tu devrais, eh bien ça ne marche pas. C'est à nous que ces textes s'adressent, à chacun d'entre vous. Donc je vous invite à vous demander dans quelle mesure le Seigneur peut me parler à travers ces textes aujourd'hui. Ne vous préoccupez pas des autres. Préoccupez-vous de chacun d'entre vous. Comment est-ce que Dieu peut vous parler à travers ces textes si importants? Le premier, ça va être par rapport au fait de savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Et on va voir un petit peu pourquoi les disciples posent cette question. Qu'est-ce qui est en jeu? Et de bien comprendre la réponse de Jésus avec l'image, vous voyez, d'un enfant. Parce que Jésus va prendre l'image d'un enfant, le plus petit dans la société, pour rappeler les points clés de la grandeur selon Dieu. Le deuxième passage, vous voyez cette main qui sort de l'eau, là, qui est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Si on fait pécher un petit, une personne fragile, une fois, plusieurs fois, que c'est notre habitude de faire, d'abaisser d'autres, alors c'est grave, c'est très grave et on expliquera pourquoi cette image est liée au fait que Jésus va parler de dire que c'est pire que d'avoir quelqu'un à qui on attache une meule, une grosse pierre autour du cou et qu'on le jette dans la mer. Donc de dire c'est très grave. Ensuite, vous allez avoir l'histoire par rapport à ces petits, de l'importance d'aller chercher un petit, quelqu'un qui se perd, quelqu'un qui est en train de perdre pied, et la joie du berger d'aller chercher un de ces petits, d'aller l'aider à retrouver la joie de Dieu, la joie de la communauté. Et ça sera vraiment la parabole de la brebis perdue, qui n'est pas concentrée sur la perte, mais sur la joie de réintégrer quelqu'un dans la communion fraternelle, dans la communion ensemble. Ensuite, vous voyez ces deux personnes, est-ce qu'elles sont en bons termes, à votre avis? Est-ce qu'elles ont l'air de bien s'entendre?
Non, pas du tout.
Elles sont le dos tourné l'une contre l'autre. La communication non verbale est assez claire, et si vous voulez regarder les dents en zoom, c'est assez flagrant. Si ton frère a péché contre toi, comment on gère ce genre de situation? Comment est-ce qu'on intervient par rapport à ce genre de situation? Et cette parole n'est pas adressée à des pasteurs, elle est adressée à des personnes dans l'assemblée.
Ah,
on n'y est pas encore. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait vérité. Là où il n'y a pas vérité, le pardon est beaucoup plus difficile. Et c'est un des points, pour qu'il y ait réconciliation, il faudra que la vérité se fasse. Si la vérité n'est pas faite, la réconciliation sera superficielle. Et c'est là que je rappellerai ce texte quand nous arriverons au niveau du pardon. Souvent, les chrétiens ont confondu pardon et réconciliation. Pardon, est-ce qu'il y a une condition? Non, c'est inconditionnel. Le pardon est une attente de Dieu. Réconciliation, que les deux puissent fonctionner, les personnes ensemble, en harmonie, il faudra qu'il y ait une vérité qui vienne, il faudra qu'il y ait une vraie réconciliation. Ce processus est différent. Pardon et réconciliation sont deux choses que Dieu aimerait aller main dans la main, mais qui ne vont pas toujours. Si vous avez quelqu'un qui est violent, vous pouvez lui pardonner, vous êtes appelé à pardonner à la personne. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui est violent dans l'assemblée, je protégerai l'assemblée. Parce que la violence n'est pas invitée à être pardonnée sans cesse. Il faut qu'elle soit adressée. Et c'est ce qu'on verra un petit peu aujourd'hui, par exemple, comme un des exemples. Ça sera là où on s'arrêtera. Et je vous invite à garder à l'esprit que on n'a fait qu'une bonne moitié de ce chapitre. Le point fondamental sera la fin. Une fois que vous avez compris ces parties-là, vous pouvez entrer dans le pardon. Si vous avez oublié ces parties-là, et c'est une des plus graves erreurs quand on lit la Bible, de lire un verset et d'en faire une unité indépendante du tout. Un des exemples, c'est par exemple, on verra le verset 18, verset 19 et verset 20. Vous verrez, c'est toi Marie qui a mentionné, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, ce verset, c'est le verset 20 du chapitre 18. Mais on oublie souvent le contexte. C'est un contexte de pardon, de confrontation pour la réconciliation. Hein? Donc, c'est vraiment... Là, vous avez un chapitre d'une importance, je dirais, capitale. C'est pas... Bien sûr que tous les chapitres sont importants, mais celui-là, pour une communauté, pour un ensemble de personnes, vous avez des enseignements clés. Alors... Nous allons commencer par le premier texte qui donne la couleur, si on peut dire. Les disciples, dans ce chapitre, poseront deux questions. La première question qu'ils vont poser, c'est « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ah, est-ce que ça vous intéresse de savoir où vous serez dans le royaume des cieux, si vous serez les balayeurs ou si vous serez les princes et les... Des fois, il y a des gens qui se posent cette question, de se dire « Comment on peut faire pour être grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus, il va vous expliquer comment ça marche. D'abord, je vais vous lire le texte, le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» On est juste après l'histoire où Pierre a demandé à Jésus, dans le chapitre précédent, chapitre 17, « Jésus, est-ce qu'on doit payer la taxe pour le temple ?» Et Jésus va dire « Non, on n'a pas besoin, parce qu'on est enfant de Dieu, il y a quelque chose qui change, le rôle avec le temple est en train de changer, le rôle du temple va disparaître parce que Jésus est le temple et on va être invité à être des temples. » Mais Jésus répondra à Pierre et lui dira quand même « pour ne pas choquer les gens, tu vas donner l'impôt pour toi et pour moi. » Dans cette histoire, tout comme plusieurs histoires avant, Pierre est en train de prendre une position de numéro un. Il est le premier des disciples. Il était venu avec Jacques et Jean sur la montagne. Il était celui à qui Jésus avait dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Et il lui a dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel ». Vous allez voir que ce n'est pas un truc pour le pape ou pour Pierre spécialement, c'est pour tous les disciples, cet appel, et on va le retrouver dans ce chapitre. Ça sera, je crois, verset 18. Mais on voit comment Pierre commence à prendre un rôle clé. Et vous savez quoi? Commence à prendre un rôle clé dans l'Église, il y a des jalousies qui commencent à venir. Et il y a toute cette question de savoir comment les places se positionnent. Qui est au-dessus de tel autre? Et Jésus va rappeler un petit peu comment ça fonctionne dans l'Église. Et ce sera les versets 2 à 4 pour commencer que je vous lis. Donc vous voyez ce petit enfant, d'abord l'image, pardon, je n'ai pas mentionné. Vous voyez l'image d'un enfant amené par un homme. Alors vous pouvez imaginer que c'est Jésus. Si j'avais des dons suffisants en dessin, j'aurais fait un Jésus qui est toujours pareil sur tous les dessins. Mais dans les différents chapitres, vous voyez que des fois, Jésus, il a une barbe plutôt brun clair, plutôt brun foncé. Des fois, il a des habits blancs, des fois des habits bleus. C'est au mieux. C'est pour vous rappeler, imaginez que c'est Jésus qui amène un enfant et qui fait son enseignement de manière concrète. Jésus, des fois, il veut choquer. Et là, il va essayer de choquer les gens pour leur rappeler le fondement de la communauté. Que finalement, cette question de dignité, de fierté, Jésus, quelque part, il va dire, si vous voulez être vraiment mes disciples, il y a quelque chose de nouveau qui est en jeu. Et je vous lis les versets 2 à 4. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus commence à répondre à la première question. Cette question de comment être grand dans le royaume des cieux. Il avait dit à ses disciples, un peu avant, c'était au chapitre 11, il avait dit, Jean le Baptiste est le plus grand parmi les fils d'hommes, les enfants d'êtres humains. Mais, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc Jésus, il leur dit, vous allez être dans le royaume des cieux. Donc qu'est-ce qu'ils vont se poser comme question, les disciples? Bon d'accord, on est tous plus grands que Jean, donc, si on était disciples. Mais entre nous, est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que les autres? Est-ce qu'il y en a un qui va devenir le pape? Est-ce qu'il y en a un qui va devenir le super apôtre? Qu'est-ce que Jésus est en train de répondre? Il leur dit en vérité. Amen. En hébreu, qui est traduit en grec aussi. Mais c'est de l'hébreu. Amen, ça veut dire c'est du solide. Amen, ça veut dire c'est sûr, c'est stable, c'est un bon fondement. En gros, quand Jésus commence avec Amen, qui est traduit en général aujourd'hui par je vous le dis en vérité, c'est écoutez bien, il y a un fondement, il y a quelque chose de solide là que je vais vous dire. C'est comme si Jésus disait écoutez bien, il y a quelque chose d'important qui va être que j'aimerais vous dire. Si vous ne vous convertissez, le mot convertir est un peu fort, c'est si vous ne changez pas, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne changez pas et que vous ne devenez pas comme les petits-enfants. C'est quoi les petits-enfants à l'époque? Les petits-enfants à l'époque, c'est pas comme les petits-enfants aujourd'hui qui vont au supermarché, qui disent « Papa, maman, je veux ça », et puis les parents, pour essayer de faire calmer la voix et de ne pas avoir honte dans le supermarché, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Est-ce qu'ils sont fiers, les parents, d'avoir fait ça?
Non.
Non, ils ne sont pas fiers, parce que ce n'est pas bon de donner à la volonté de l'enfant, surtout sur un coup de tête. Ça n'a jamais été bon, ça ne sera jamais bon. Vous ne construisez pas la volonté de l'enfant, vous la détruisez. Ce n'est pas une volonté qui va se traduire dans le long terme, c'est une volonté fragile qui va s'exprimer dans des impulsions seulement. Ce n'est pas bon. Mais j'aimerais vous dire que ça, c'est pas les enfants de l'époque. Les enfants de l'époque, ils étaient comment? Ils étaient des enfants qui n'avaient aucun droit de parler. Ils ne mangeaient pas avec les parents. Ça, c'est une génération avant. Ceux qui sont d'une génération avant, peut-être que mémé fillette, quand vous étiez petite, est-ce que les enfants mangeaient à la table des adultes? Non. Est-ce qu'ils avaient le droit de parler avec les adultes? Est-ce qu'ils pouvaient critiquer une parole d'un adulte? Et même ta génération. C'est elle a seulement cette génération que cela a changé. Les baby boomers. Et là, on est dans la bascule inverse. Hein? Et il y aura un équilibre à trouver. Mais ce que vous décrivez est plutôt ce que Jésus décrit. Les petits-enfants n'avaient pas le droit à la parole. Dans l'Empire romain, c'était pire. Dans l'Empire romain, le chef de famille avait le droit de vie ou de mort sur les enfants. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand les parents n'étaient pas contents, ils pouvaient tuer l'enfant. Ils pouvaient le battre, l'humilier, le chasser, le tuer.
C'est pas mieux, hein.
Alors, c'est pas un exemple qui est donné. Là, Jésus n'est pas en train de dire « Parents, battez vos enfants ». Quand il y aura un enseignement, il dira « Parents, aimez vos enfants, ne les frustrez pas ». Ça sera Paul qui donnera des enseignements là-dessus, dans par exemple Éphésiens ou Colossiens, en disant « Voilà, n'irritez pas vos enfants ». Je ne suis pas en train de vous dire « Vous pouvez battre vos enfants » ou quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire « La position des petits-enfants à l'époque était une position difficile. Ils ne pouvaient pas se défendre par leur propre force. Ils n'avaient aucun droit acquis. Aujourd'hui, nous sommes dans une société du « J'ai le droit ». J'ai le droit à. Je peux demander. Vous savez quoi? On a des droits et on a des
devoirs.
Et notre société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rappelle 90% du temps vos droits pour essayer de profiter de vous. Soit un avocat qui veut profiter de votre argent en disant vous avez le droit de. Malheureusement, ça arrive. Soit ça va être des publicités qui vous diront « Vous avez le droit de vous faire plaisir et si vous vous faites plaisir avec notre nouvel appareil, ce qu'ils ne disent pas, c'est que vous nous ferez plaisir parce qu'on aura plus d'argent. » Oui, responsabilité. Les petits-enfants n'ont aucun droit. Les petits-enfants n'ont aucun droit. Et en tant que chrétien, plus vous allez croître en tant que chrétien, plus vous allez être capable d'accepter l'humiliation. Vous savez ce que c'est l'humiliation? C'est ne pas être respecté, être critiqué. Et vous vous dites, mais ça, j'ai du mal à supporter. De quoi Jésus est en train de parler? D'être comme ça. L'humilité. Et humilité, ça vient d'un mot en latin qui veut dire humus. L'humus, vous savez ce que c'est? C'est de la terre, c'est le matériau dont on est composé la terre. L'humilité, c'est être lié à la terre. D'abord, la terre, c'est au niveau des chaussures, donc c'est tout petit. Et c'est aussi la réalité. Être enraciné dans la réalité. C'est difficile. Je vais vous dire, l'humilité, ce n'est jamais facile. C'est pas une technique, tout d'un coup j'ai compris, ça y est, j'ai la méthode absolue, on m'humilie, ça ne me fait rien. L'humiliation fait toujours du mal. L'humiliation est toujours douloureuse. La question c'est, comment la gérer? Et vous allez voir qu'il y aura des éléments par rapport à si ton frère a péché contre toi, s'il y a péché. Il y a deux choses, il y a des fois le péché, et des fois le fait qu'on sente que notre personne, on a été frustré ou on a été humilié. À vous d'apprendre à discerner péché et humiliation. Si dans la communauté chrétienne, et c'est là qu'il y aura une différence, dans la communauté chrétienne, le but c'est de pouvoir se dire quand on n'est pas d'accord, plus que ça. Pouvoir se dire quand on sent que l'autre a péché contre nous. Comment reconnaître les péchés? Les péchés c'est pas tu ne m'as pas respecté, ce n'est pas tu n'as pas respecté tel autre. Le péché, c'est par rapport à moi, par rapport à ma référence, et de dire un point précis. Si vous voulez une liste de base des péchés, tuer, voler, faux témoignage, vol, j'ai mentionné,
mentir
n'est pas un des 10 commandements, c'est faux témoignage. Faux témoignage parce que le mot mentir après, C'est encore un sermon complet, parce que l'évaluation de la vérité va être quelque chose que vous devez faire attention quand vous le faites. Vous allez dire, telle personne a menti. Et peut-être que c'est votre impression que la personne a menti. Donc faites attention à ça. Hein? Je ne suis pas en train de vous dire, vous pouvez mentir. Je suis en train de vous dire, faites attention quand vous dites, telle personne a menti. Vous avez déjà entendu des personnes se critiquer et lui dire, oui, tu as menti. Non, c'est toi qui as menti. Non. Vous avez déjà entendu des trucs comme ça? Et ça ne porte pas de fruits. La vérité est une importance fondamentale. Et on va en parler et dire la vérité avec amour. Mais le point, c'est le faux témoignage. Donc, quelque chose qui a un impact même au niveau des autres. Hein. Non seulement quelque chose, et je dirais le mensonge, oui, mais comprenons-le bien, le mensonge, quelque chose qui est témoignage. Par exemple, si je dis, Colin a détruit la porte de l'église. Alors, j'essaye de choisir des trucs où il n'y a vraiment aucun danger. Colin, c'est celui qui répare le plus de choses dans l'église, quasiment. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Voilà. Mais, si je témoigne de ça, et que c'est un mensonge, alors que moi, j'ai manqué d'attention, puis j'ai abîmé la porte de l'église, puis je dis, non, c'est pas moi, c'est Colin. Hein? Là, ça serait un faux témoignage. Pour donner un exemple concret, hein. Et ça serait, comme Dominique, tu mentionnais, ce serait un mensonge. De fait. Alors, devenir comme des petits-enfants. C'est difficile de devenir comme des petits-enfants, mais c'est la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus, quand on l'a humilié, quand on l'a amené sur la croix, qu'est-ce qu'il a répondu à ceux qui l'accusaient ? C'est vous qui le dites. Et il a gardé la bouche fermée. Il n'a pas répondu aux accusations. Il s'est laissé humilier sans répondre. Une autre façon qu'il a utilisée pour montrer ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Juste avant qu'il soit emprisonné, il va laver les pieds de ses disciples. Il va laver les pieds des disciples pour leur montrer, finalement, une attitude de service. Et cette attitude de service est fondamentale. Combien de fois nous servons les autres ? Combien de fois nous pouvons dire avec honnêteté dans notre cœur, j'ai eu cette attitude de service. Est-ce qu'à votre avis, les pieds des disciples sentaient bon quand Jésus leur a lavé les pieds ?
Non.
Non, probablement pas. Alors peut-être qu'il les avait lavés avant le repas, comme c'était un repas important, mais en général, c'est très humiliant. Et ça a tellement choqué Pierre à ce moment-là qu'il lui a dit, tu ne me les laveras pas. Jésus voulait montrer vraiment cette humilité. Combien de fois, dans la semaine, nous faisons des actes d'humilité envers les autres. Je dirais, je vois mon épouse Sandra, on fait souvent envers moi. Ce que j'essaye de mon mieux, c'est d'être reconnaissant et de lui dire merci aussi souvent que je peux. J'essaye de mon côté de faire des actes d'humilité envers mon épouse et nous avons les uns envers les autres de faire ces actes. Ça, c'est fondement numéro un dans la communauté. Si vous voulez construire de la communauté, je vais vous demander combien d'actes d'humilité vous faites dans vos semaines. Combien d'actes de service vous avez envers l'autre ? Peut-être que certains d'entre vous vont commencer à vous dire « Oui, mais lui, oui, mais elle !» Qu'est-ce que je vous répondrai ? Et vous ? Et vous ? Et moi ? Moi, quand je lis ce texte, je ne pense pas à quelqu'un dans l'église, je pense à moi. Ok, Seigneur, bon, comment j'avance là-dessus ? Comme les petits-enfants, ceux qui n'ont aucun droit qu'il réclame, qu'il tape du poing en disant « j'ai le droit ». Ils ne peuvent pas, les petits-enfants de l'époque. Aujourd'hui, je dirais, il y a du bon dans l'évolution, petit à petit, de reconnaître une certaine autorité aux enfants. Après, il faut la cadrer. Hein. Je donnais l'exemple dans les magasins. En général, en tant que pasteur, je dirais, un enfant, il ne faut pas dire oui tout de suite à une impulsion. Vous n'allez pas l'aider à grandir. Mais sur du long terme, aider l'enfant à dire « voilà », se projeter dans l'avenir. Sinon, les enfants auront du mal à s'imaginer l'avenir. Donc, mais les petits-enfants, il y a une question d'humilité qui reste. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Se rendre, ça nécessite un effort. Se rendre, ça veut dire que ce n'est pas facile. Ça n'est pas évident. Mais c'est important. C'est important parce que si vous ne le faites pas et que l'autre ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? Lui m'a humilié. Non, c'est pas lui qui m'a humilié, c'est elle qui m'a humilié. Et ça commence. Et on n'a aucune solution. Et la réponse à chaque fois, non seulement de votre pasteur, mais de la parole de Dieu, ça sera « Et vous ? Et vous, comment vous avancez ?» Et Jésus finira au verset 5 en disant « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Ce que Jésus veut dire, c'est que dans la communauté chrétienne, on n'est pas invité à accueillir ceux qui sont brillants, ceux qui sont importants. On est mené à accueillir les gens simples, les petits, et vraiment de pouvoir honorer ceux qui sont petits. Dans la communauté chrétienne, celui qui est grand, c'est pas celui qui va avoir le plus de diplômes, la plus grosse voiture, le plus gros métier, etc. Dans la communauté chrétienne, il nous est invité à prendre d'autant plus de temps à honorer celui qui est petit ou celle qui est petite. Et ça, c'est pour nous. Ça, c'est la base. Sans l'humilité, tout le reste du chapitre, vous pouvez oublier. Si vous n'apprenez pas à faire des actes d'humilité, de service, tout le reste de ce chapitre vous sera difficile à comprendre. J'aimerais vous lire les versets suivants. On passe à la question des causes de chute. Non seulement il faut prendre soin des gens petits, des gens qui ne sont pas extraordinaires dans la foi chrétienne, mais qui sont là, qui viennent, qui sont partie de la communauté. Et au-delà de la communauté, le but de la communauté chrétienne, c'est d'avoir un impact sur toute la société. Alors il y a des gens des fois qui disent « Oui, mais ça, ces règles, il faudrait les faire pour toute la société. » Je dirais, c'est de la belle théorie, mais si vous ne le vivez pas dans une petite communauté, vous ne le vivrez pas dans une grande. Ça commence par vos familles, ça commence par nos couples, ça commence par nos enfants, par nos parents, par nos amis, par nos frères, par nos sœurs. Si ça ne commence pas là, n'imaginez pas que vous allez le faire ailleurs. Ça commence avec ceux qui sont proches de nous, avec les difficultés. C'est toujours les plus difficiles, les familles, hein. Faut pas être naïf. Dans nos familles, c'est là où il y a tout le passé. Et c'est là où il y a tout l'apprentissage, la dureté, la difficulté. Mais c'est là que l'Évangile s'incarne. C'est là que l'Évangile transforme, en premier lieu. Les causes de chute, les versets 6 à 9. Faire tomber quelqu'un, c'est grave. Faire tomber quelqu'un, c'est grave. Encore une fois, c'est pour chacun d'entre nous, cet enseignement. Je vous lis les versets 6 à 9. En même temps que je vous les lis, vous avez peut-être remarqué par rapport à la semaine dernière, vous avez vu les numéros là, il y a avec le petit bout d'image, hein, ça correspond. Vous avez remarqué, il y avait un jeune homme, Laurent, qui était venu, le fils de France, qui m'avait dit « Stéphane, tu sais quoi ?» On avait discuté sur les graphiques, comment faire, et il m'avait dit « Peut-être ça serait plus efficace si tu mettais ça. » Donc, je crois que c'était un très bon conseil, et c'est pour ça, je pense, ça va vous aider. Le but de tout ça, de tout ce boulot, c'est quoi ? C'est que ces outils graphiques vous aident à vous rappeler de la parole de Dieu. Si vous les prenez et qu'ensuite vous les mettez à la poubelle, je vais être honnête avec vous, je préfère que vous les laissiez sur votre chaise. C'est pas grave, hein. Et moi, je calcule un peu le nombre de personnes qui les prennent. Vous n'avez pas besoin de ces graphiques pour aimer le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de ces graphiques pour grandir dans le Seigneur, hein. Soyons clairs. Des générations ont fait 100 et des générations feront après. Je crois que ça peut être utile. Mais s'il vous plaît, par respect pour moi, si vous n'allez pas les utiliser chez vous et que vous vous rendez compte que ce n'est pas les outils que je vais utiliser, laissez-les sur votre chaise à la fin. Comme ça, je sais un petit peu. Et en général, je mettrai juste à l'écran pour ne pas qu'on gâche. Parce qu'on est dans un monde avec des ressources limitées et le but, petit à petit, on est conscient qu'il faut limiter, ne pas imprimer si ça n'est pas nécessaire. Et à l'écran, on peut très bien lire ensemble. Alors, les versets 6 à 8, les causes de chute. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, c'est une grosse pierre, et qu'on la jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Elle est dure, cette parole. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi. En gros, si quelqu'un vient à faire confiance à Jésus et commence à marcher par la foi, et que on va finalement avoir une parole dure pour cette personne. Une parole qui va chasser la personne de la communauté. Qui va amener l'autre à chuter. Je vous dis pas une parole et tout d'un coup sur une parole votre avenir est joué. C'est une attitude qui est plutôt en jeu, hein. Mais si on fait tomber une personne, c'est très grave. Moi, en tant que pasteur, si par ma parole je fais tomber quelqu'un, le Seigneur, je peux vous assurer qu'il va pas me louper. Il va me dire Stéphane. Et je dois être hyper attentif et il vaut mieux que je demande pardon. J'avais un très bon pasteur en Suisse, Robert, qui nous montrait l'exemple. S'il avait fait une faute en public, il demandait pardon en public. Même s'il n'était pas sûr que ça avait pu choquer la personne. Si c'était en privé, il faisait la demande de pardon en privé face à la personne. Donc garder le cadre. Mais si on a l'impression qu'on a pu faire chuter une autre personne, il vaut mieux vous humilier plus que nécessaire, mais l'avoir fait au moins d'avoir dit « je te demande pardon ». Je prie de... Alors, France ? Faire chuter. Alors faire chuter, ça va être, par exemple, une personne nouvelle chrétienne qui commence à venir à une réunion d'église. Et il y a quelqu'un qui, bien intentionné, lui dit « Ok, d'abord, tu dois changer ça dans tes habits, ça dans truc. Il y a ces paroles qui ne sont pas justes. Et si tu veux être à la réunion de prière, va te changer, prépare-toi, puis après, quand tu es prête, tu viens. » Là, je fais la totale, hein. La totale. Vous voyez un petit peu le genre de choses où on va chasser de la communauté, finalement, on va donner l'impression à l'autre, tu n'es pas bienvenu. J'espère que notre église est une église où on pourra accueillir des alcooliques, des prostituées, des voleurs. J'ai pas dit qu'ils restent voleurs, qu'ils restent alcooliques, qu'ils restent prostituées. C'est toute la transformation qui est en jeu. Mais j'espère qu'on pourra accueillir des personnes et ne pas commencer par leur dire « tu changes tout ça, sinon t'es pas dans l'église ». C'est pas facile, hein, ce que je vous dis là. Mais pensez à cette parole. Après, peut-être, si, imaginons, il y avait une femme prostituée qui arrive avec des décolletés vraiment qui font que tous les hommes de l'assemblée ont les yeux qui sont détournés. Eh bien, on priera et on aura une des femmes qui ont l'habitude d'être délicates dans ce domaine, qui ont une sagesse, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins de sagesse et qui viendra voir « ma sœur, viens, on va prendre du temps ensemble » et encourager la personne à évoluer par rapport à ça, dans la relation. Mais pas commencer par dire « tu dois faire ci, ceci, cela ». Vous voyez un petit peu l'enjeu ? Est-ce que ça répond un peu à... Donne un exemple.
Très bien.
Merci. Et malheureusement, je dirais, cette question-là est une question qui est grave. Et ça, c'est arrivé dans le passé. C'est arrivé et ça peut arriver. Donc, rendez-vous compte, si une personne vient avec des péchés et qu'elle ne bouge pas et qu'elle continue à faire les péchés dans l'assemblée, ça tombe bien, on a le verset 15 à 20. Hein ? Donc, si un voleur vient et qu'il commence à voler dans l'assemblée, ça marche pas. Ça marche pas. Il y aura une correction mutuelle qui sera en jeu. Mais d'abord, faites attention à ne pas faire tomber un petit. Quelqu'un qui commence dans la foi, quelqu'un qui démarre, et j'aurais tendance à dire, je répète, ne dites pas telle personne m'a fait tomber, et appliquez aux autres. Cette parole, c'est pour chacun d'entre vous, c'est pour moi et pour chacun d'entre vous. Mal remonte pour cela. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Des scandales, c'est des causes de chute. Il y en aura. Jésus nous dit, il y en aura. Mais malheur à celui par qui ça arrive. Et ça sera le cas, par exemple, de Judas, qui va faire tomber, qui va provoquer l'emprisonnement de Jésus. Et Jésus passe ensuite à une étape suivante. Non seulement de dire, c'est grave de faire tomber un petit, mais il dit ensuite, Si ta main t'amène à pécher, à être une occasion de chute, pour toi, pour quelqu'un d'autre, mais pour toi aussi, ou bien ton pied, ou bien ton œil. Quand c'était par rapport à l'adultère, Jésus avait dit d'abord l'œil. Logique, parce que l'adultère commence par la vue en général. Le regard, la pensée et l'action vient ensuite, malheureusement. Il leur dit, arrache-le et jette loin de toi. Il vaut mieux arriver dans la vie éternelle avec un œil, un bras, une main ou un pied en moins que d'arriver avec tous ses membres, mais d'être jeté dans la géhenne de feu. Alors, bien sûr, je ne vous invite pas à vous couper la main. Je ne vous donnerai aucun conseil sur le type de couteau à utiliser pour vous couper le pied. C'est pas le but. Vous êtes bien conscient. C'est une image, une métaphore. Mais cette métaphore, ne la prenez pas en disant « ben oui, c'est théorique ». Non. Si il y a une attitude que vous avez qui entraîne un péché, vous devez l'arrêter. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais des combats au niveau de la pureté. Pureté des pensées, pureté du cœur. Et je me suis rendu compte à un moment donné que pendant plusieurs années, il fallait que j'arrête d'aller au cinéma. J'aimais beaucoup les films. Mais j'ai arrêté complètement au cinéma parce que je me suis rendu compte que, malheureusement, dans les films modernes, vous avez beaucoup d'impuretés. Et progressivement, le Seigneur m'a donné une liberté pour pouvoir voir des films que je choisis. Mais il y a eu une partie de ma vie que j'ai dû couper. Les jeux de rôle, j'aimais beaucoup ça sur ordinateur. Vous savez ce que c'est les jeux de rôle? On joue pendant des nuits, mais ça me détruisait les yeux. Ensuite, je ne faisais pas ce qu'il fallait. Je voyais que finalement, ça devenait une dépendance. Une dépendance, une addiction. Et bien, j'ai dit, j'arrête. Si ce n'est pas bon pour moi, je dois arrêter. Dans votre vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous amène? Peut-être des fois, c'est d'aller dans des lieux où vous allez être amené à avoir des pensées impures, des actions impures. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? N'allez plus dans ces lieux. C'est la parole qui est ici mentionnée. Si vous avez tel type d'émission à la télévision qui provoque telle chose, ne regardez plus ces émissions. Je vais être... Laurence, tu as une mention à faire? Alors, c'est là que le discernement est nécessaire. Le but de l'évangile, c'est qu'il se propage. Et donc, Jésus allait manger avec des pêcheurs, avec des samaritains, avec des... Il a été en contact avec des prostituées, il a été en contact avec des collecteurs d'impôts qui étaient des traîtres pour la nation juive, il a été en contact avec des non-juifs. Mais il ne s'est jamais laissé influencer. C'est à toi, Laurence, de sentir... dans la relation, et c'est à chacun de vous de sentir jusqu'à où vous pouvez aller sans être contaminé par le mauvais de l'autre. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à une relation intime avec quelqu'un qui vous amène à faire des choses mauvaises. Prenez conscience, gardez une certaine distance, n'allez pas trop loin, trouvez la distance juste où vous pouvez influencer en positif sans être influencé en négatif. Ça va être le point clé. Parce que le but... c'est de ne pas pécher, mais aussi de montrer de l'amour. En général, dans votre vie chrétienne, ça commence par essayer de limiter les endroits où vous péchez. Malheureusement, si vous ne limitez pas ça, vous n'aurez aucun fruit. Mais ce n'est pas la fin. Le but, c'est vraiment cette capacité, comme Jésus, d'arriver à aller dans tout lieu. Et j'avais un exemple en Suisse, il y avait une bonne sœur protestante, ça existe, c'est rare, mais il y en avait. Et elle sentait que Dieu l'amenait à aller dans des boîtes de nuit avec son habit de bonne sœur. Vous imaginez ça? Elle allait s'asseoir à une petite table, elle n'allait pas danser. Hein. Elle allait s'asseoir à une petite table dans une boîte de nuit et elle priait. Et s'il y a quelqu'un qui voulait parler, elle parlait avec la personne. Elle devait être très claire. Elle devait vraiment être enracinée en Jésus pour ne pas être contaminée par des paroles honteuses, par des attitudes ou des façons de se présenter, des séductions qui la rendraient impure. Donc, rester pure à l'intérieur. Mais elle pouvait témoigner. Donc, on finit là-dessus. le premier point sur lequel ce texte appuie, c'est faites attention. Ne laissez pas le péché dans vos vies. Coupez, s'il y a des domaines dans votre vie où vous pouvez retirer, si manger vous entraîne à pécher, je ne vous invite pas à jeûner jusqu'à la mort. Je vous invite à changer votre façon de manger. Mais soyez conscient que le péché entraîne à l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est pas un truc que Dieu a inventé ou quoi. C'est la séparation d'avec Dieu. Si on n'apprend pas à aimer Dieu et son prochain, on récoltera les conséquences de nos actions. Si on se coupe des autres dans cette vie, eh bien, dans la vie à venir, on sera coupé des autres. On récolte finalement le fruit de nos actions. N'imaginez pas un méchant Dieu qui dit « Puisque tu as fait ça, je vais me venger sur toi, je te punis. » Non. Dieu est tellement bon, tellement respectueux de la liberté. Dieu est un Dieu libre. Il a créé par choix libre. Il veut qu'on soit libre. Ce qui veut dire qu'il nous permet de pécher. Qu'il nous permet... L'enfer, ce n'est pas Dieu qui l'a inventé. C'est nous dans le péché qui l'inventons. Ne nous y trompons pas. Et finalement, c'est ce qui est en train d'être dit. Si vous laissez le péché régner dans votre vie, ça va aller jusqu'au bout. Et on arrive à l'étape suivante. On a vu cette question d'abord d'humilité. Pour une communauté, sans l'humilité, les communautés ne sont pas possibles. Elles ne se construiront pas. Ensuite, il y a les causes de chute. Après, s'il y a des personnes qui peuvent chuter, il est important de les rattraper, de faire tout ce que vous pouvez pour les rattraper. C'est pour ça que nous arrivons au verset 10 à 14, que je vous lis. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ne pas mépriser les petits. Ne pas mépriser quelqu'un qui commence dans sa foi chrétienne. Ne pas mépriser quelqu'un qui, au niveau social, n'est pas très élevé. Et Jésus mentionne le verset sur lequel, des générations après, et beaucoup de personnes ont basé la notion d'ange gardien. Vous avez déjà entendu parler d'un ange gardien ?
Oui.
Ça vient de ce verset. Alors, il n'y a que ce verset dans la Bible qui semble mentionner que il y a des anges associés à des personnes. On a des anges associés avec des nations, on le voit dans Daniel. Des anges associés avec des églises, on le voit dans la Révélation. Des anges associés avec des personnes, on le voit avec Jacob dans Genèse, mais c'est un des rares exemples. Là, Jésus dit, il y a des anges dans les cieux qui voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il veut dire d'abord qu'il y a des anges qui se soucient des petits. Les anges, c'est un mot joli pour nous. On imagine des anges, des gens avec des petites ailes. On imagine des êtres rayonnants de lumière. Un ange, ça vient du mot en grec angelos, en grec malhar, qui veut dire un envoyé. Un envoyé. Ça veut dire quelqu'un qui est envoyé par une autre personne pour transmettre un message. Et c'est comme des communicateurs de grâce, de messages. Si vous avez un ange des fois qui vous parle et qui vous dit autre chose que le Seigneur Dieu a dit et qui vous parle, faites attention. Le but d'un ange, c'est de ne pas parler, mais de transmettre des messages. Le but d'un ange, c'est pas d'être autonome, mais de communiquer des messages de Dieu. Donc si vous voulez reconnaître un ange, c'est un envoyé. Et ces envoyés alternent entre la terre et les cieux. Il y en a. Alors, ne vous y trompez pas, ne mettez pas des ailes aux anges. Un ange, ça peut être vous demain, à qui Dieu vous parle et vous dit « Va voir telle personne pour l'encourager, pour la corriger, prie pour elle. Vous devenez un ange pour l'autre. Pourquoi ? Non, non, c'est tout bête. Vous devenez un ange parce que vous êtes envoyé par Dieu pour faire une action envers tel autre. C'est tout bête. Alors, il y a des fois, il y a des enseignements où on va vous mettre dans les boîtes. Il y aura la prophétie ici, il y aura le don de guérison, le don. Dans le Nouveau Testament, ces descriptions n'ont pas pour but de mettre dans des boîtes, mais de décrire les différentes façons dont Dieu peut parler, communiquer avec le monde et se transmettre. Donc, je dirais, rappelez-vous, le but de Dieu, c'est de communiquer avec les êtres humains. Là, je ne parle que des anges. Des anges, c'est des envoyés. Qu'est-ce que ça veut dire un ange ? Ça veut dire un envoyé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que Dieu vous envoyait pour parler à quelqu'un ? Eh bien, à ce moment-là, pour cette tâche précise, vous avez été quoi ?
Un envoyé.
Un envoyé, on dit ça comment en grec ? Angelos. C'est quoi le mot en français ?
Un ange.
Est-ce que ça veut dire que les anges, on va leur dire merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse ? Pas toujours. Alors, faites attention, pour parler au nom de Dieu, il faut que votre relation avec Dieu soit forte. Hein. Ne parlez pas en disant « Ah oui, il y a un problème, il y a telle solution, puis je vais parler, puis c'est Dieu qui veut. » Faites attention. Mais, en même temps que je vous mets en garde pour la sagesse, vous êtes invités à être des messagers de Dieu pour d'autres. Moi, je suis invité à être quoi ici quand je prêche ? Un ange. J'essaye de mon mieux de le faire. Et Dieu, que le Seigneur, il ait pitié de moi, que je puisse l'être. Je ne suis pas en train de vous dire il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas... Ce que je suis en train de vous dire, c'est communiquer la grâce de Dieu à d'autres. C'est ça qui est en jeu pour un ange. Et là, il y a des anges qui voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Voir la face dans l'ancienne culture, ça voulait dire être très proche, un peu comme des ministres. Quand on avait un roi à l'époque, quand on venait voir un roi, vous savez quelle était la position quand vous vouliez voir le roi ? À plat contre terre. Est-ce qu'on avait le droit de lever les yeux ?
Non.
On restait à plat. Et si le roi le voulait, il pouvait vous relever la tête pour que vous puissiez regarder. Mais on vous avait pas dit de lever la tête à l'époque et que quelqu'un regardait, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait un châtiment. Et suivant les cas, il y avait un châtiment qui pouvait être très grave. On n'a pas un Dieu comme ça. Hein. On n'a pas un Dieu qui, veut nous humilier. Il veut nous élever. Mais pour nous élever, il faut qu'on apprenne l'humilité. C'est ça le paradoxe de l'Évangile. Pour être élevé, il faut apprendre l'humilité. Parce que si on s'élève nous-mêmes, nous serons humiliés. Et si nous nous humilions, Dieu nous élèvera. Et c'est ce que nous voyons ici, voyant que les petits, ils ont leurs anges qui voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et ça veut dire que ces petits, ils ont un accès direct auprès du Père. Ils sont respectés par Dieu, estimés par Dieu. Et ensuite, les versets 11 à 13 nous donnent l'histoire d'un homme, d'un berger qui va laisser 99 brebis pour prendre une petite brebis. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est parlé d'une brebis qui s'est égarée, donc qui était avec le troupeau et qui s'est égarée. Dans l'évangile de Luc, ça sera plutôt une brebis qui était perdue. Le symbolisme, c'est que ici, c'est plutôt quelqu'un qui a été dans la communauté et qui s'est éloigné. Chez Luc, c'est plutôt quelqu'un qui est loin de la communauté, qu'il soit invité à la communauté. On parlerait d'évangélisation chez Luc. Ici, on parlerait de rétablissement dans la communauté, dans Matthieu. Mais les deux sont importants. Ici, les 99 autres, certains vous diront, oui, mais s'ils laissent les 99 autres, qu'est-ce qui va leur arriver ? Elles vont se perdre. Bon, alors, rappelez-vous qu'à l'époque, les bergers travaillaient rarement tout seuls, ils travaillaient en équipe. Et quand vous avez, par exemple, l'annonce de la naissance de Jésus, il y a plusieurs bergers qui viennent, parce qu'ils travaillaient ensemble. Et ici, imaginez qu'il y avait d'autres bergers, un ou plusieurs, qui gardaient les 99, et c'est pour ça que le premier berger pouvait laisser et aller prendre soin de la petite qui était perdue. Ensuite, Jésus applique en disant cela, la volonté de mon Père, c'est que pas un seul se perde. Donc, dans la mesure du possible, la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas un seul qui se perde. C'est pour ça que la communauté est invitée à finalement être une communauté de grâce. Une communauté dans laquelle on va faire des efforts les uns pour les autres. Vous remarquerez que le message ne parle à aucun moment de pasteur, de responsable de la communauté. Il parle des disciples. L'erreur la plus grande qu'une communauté chrétienne puisse faire, c'est dire « ça, c'est le boulot de... » du pasteur, il va faire son boulot. Elles ont combien d'heures mes journées à votre avis? 24 heures. Il y a des fois, c'est vous qui saurez le problème d'une personne beaucoup mieux que moi. Si vous me demandez d'aider quelqu'un que je connais peu, je vais faire de mon mieux. Mais peut-être que ça sera à vous de faire une étape. Et vous le verrez dans le prochain texte maintenant qu'on va voir, qui mentionne la question de « si ton frère a péché contre toi ». Ce texte-là, si vous le lisez indépendamment de « qui est le plus grand ?»« cause de chute ?»« brebis perdue ?» vous allez finalement vous casser la figure. Hein ? Ne l'oubliez pas. Il y a premier point, humilité. Une attitude de service. Toujours plus, nous sommes appelés à avoir une attitude de service pour les autres. Dans votre semaine, combien de fois vous faites quelque chose pour les autres ? Combien de fois vous faites des choses pour vous ? Est-ce que c'est mauvais de faire des choses pour nous ? Non, c'est une bonne chose. Mais ça n'est pas suffisant. Nous sommes appelés à apprendre à servir aussi, à faire pour d'autres. Et c'est le sujet vraiment qui était le début. Maintenant, si quelqu'un a péché contre vous, alors, péché contre vous, je vous disais, prenez les 10 commandements en général, et après vous pouvez intégrer bien sûr plus loin. Si quelqu'un a dit du mal de vous, si quelqu'un vous a critiqué indirectement, vous pourrez faire ce processus aussi, avec douceur. Mais, avant tout, il va y avoir le mot douceur qui est en jeu. Le but de ces versets, ce n'est pas de donner une méthode pour les églises pour chasser les gens, pour faire ce qu'on a appelé dans le temps l'excommunication. Le but, c'est de donner une méthode simple pour aider à savoir comment on fait pour essayer de trouver une façon de se réconcilier. La réconciliation est au cœur de ce texte. Vous voyez, les deux personnes, elles sont pas en bon terme, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et vous allez ensuite voir qu'il y a trois étapes. Il y a la première partie, c'est les différentes étapes à suivre. Il y a quatre étapes pour la réconciliation. Si quelqu'un a péché contre vous. Alors, si c'est comme on dit à la réunion, elle a dit l'a fait, ou une médisance, la vérité est nécessaire. Mais n'allez pas jusqu'à l'étape 4 devant l'église. Si il y a vraiment un péché, la personne vous a volé, la personne a été violente, la personne a fait du mal à un enfant, je dirais là on est au niveau des péchés. Là, ça doit se faire avec les quatre étapes. Mais ne vous y trompez pas, hein. Faites pas ces quatre étapes sur n'importe quoi. Dites-vous, est-ce que ce que je définis est un péché clair dans la Bible? Et si ce n'est pas le cas, n'entraînez pas trop de personnes, n'allez pas trop loin et regardez la gradation. Si ton frère ou ta sœur a péché, alors dans le texte grec, il y a contre toi. En général, on peut avoir avec ou sans. Si vous voyez un péché clair d'un frère ou d'une sœur, d'abord, si c'est envers vous, c'est en général, quand il y a un péché, c'est à la personne qui a subi le péché de réagir. Le problème est le suivant, c'est que si la personne qui a subi quelque chose ne réagit pas et que le péché était contre cette personne, si vous prenez cette autorité de gérer le péché de l'autre personne et de vous prendre la tâche, si la personne qui a souffert ne vous a pas demandé, vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, imaginons que Laurence, Colin est vraiment très méchant aujourd'hui. Ça va, Colin. La prochaine fois, ça sera quelqu'un d'autre. Hein. J'espère qu'on sera encore en bon terme. Sinon, je te demanderai pardon après, même si on n'y est pas encore dans le texte. Colin est rentré dans la voiture de Laurence. Colline a une voiture assez solide, puis Laurence, sa voiture est un peu plus petite. Donc toi, tu n'as pas de choc sur ton pare-choc, mais le côté de la voiture de Laurence, elle ne peut même plus ouvrir les portes. Et bon, Laurence, elle arrive, elle sort de la voiture, l'église, elle voit juste quand Colline a fait ça, et puis elle se dit, non, je ne vais pas le dire et tout. Puis moi, je dis, t'inquiète pas, je vais le faire pour toi, je vais lui dire à Colline qu'il ne faudrait pas faire ça et tout ça. Et toi, tu me dis, non, je ne veux pas que tu le fasses. Est-ce que j'ai le droit de dire, eh ben, Laurence, je vais m'en occuper pour toi?
Non.
Ce n'est pas ma tâche. Je ne peux pas prendre cette responsabilité, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer?
Je vais fâcher avec toi. Parce que...
Tu vas être fâché avec moi, et j'aurai pris une autorité que tu ne m'as pas donnée. Ok? Donc, on garde ça à l'esprit. Si ton frère ou ta sœur a péché, tu vas et tu reprends la personne entre toi et lui. Seul. Donc, s'il y a une correction, vous faites votre possible pour être seul à seul avec la personne. Pour que finalement, le regard des autres ne soit pas impliqué. C'est un point important. Hein? Reprends-le. Les chrétiens, des fois, et j'espère, Laurence, que ta voiture marchera toujours quand on sort. Hein?
Je ferai attention en sortant.
Tu feras attention.
Je garde
la peinture et... L'erreur que font beaucoup de communautés chrétiennes, c'est de dire, d'un côté, tu laisses tout faire, tu dis pas, tu vas donner l'apparence gentille, et de l'autre côté, il y a la médisance. Les deux sont intimement liés. Ne pas dire quand on a été blessé, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la relation est abîmée. Il y a une démarche de pardon, de réconciliation à faire. C'est à chacun de nous de le faire dans la paix. Des fois, c'est seulement prier dans notre cœur et de dire, voilà, je suis en paix. Des fois, c'est à chacun de nous de discerner comment faire pour que la relation soit bonne. La concentration de tout ce passage n'est pas sur punir, elle est sur la qualité des relations. Et peut-être on ne va pas faire trop d'interventions,
oui,
France, ici.
Si.
Une question.
Oui. De la personne qui vient à la rescousse et non pas qui laisse faire deux personnes en privé pour régler leurs problèmes sans témoin. Le pire pour moi, c'est Facebook.
Oui.
Il étale tout.
Ah.
Et où tout le monde donne son avis.
Mais là, c'est pas un à un, ça. Hein. Il y a déjà toute la communauté
c'est
qui est autour.
Oui.
Et donc, c'est...
privé,
ouais.
Régler leurs problèmes.
Voilà.
La version moderne de l'anti-situation qu'il faut,
ouais.
C'est Facebook où
tout à
on
fait.
Va se plaindre d'une personne ou d'une autre.
Tout à fait.
Et les autres sont là
ouais.
À mettre leur
problème. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Alors, Facebook, on est au niveau 4, indirect, ce n'est même pas une confrontation directe en général, c'est on met. Des fois, on poste sur ce qu'ils appellent le mur de l'autre. Je dirais, si vous vouliez utiliser Facebook, il faut que ce soit un message privé avec l'autre personne. Hein? Et finalement, c'est un manque de sagesse. Pourquoi il y a ce manque de sagesse? Je vais vous dire, c'est très simple. Il y a ce manque de sagesse parce que notre société est une société où la communauté n'existe quasiment plus. Nous sommes une société tellement individualiste que chacun fait ce qu'il veut dans son coin et qu'on a perdu ce bon sens de la communauté, de comment rétablir les relations. On ne sait pas rétablir les relations. Est-ce que des médiateurs peuvent être utiles? Oui, si les deux un à un n'ont pas réussi à régler la situation. C'est là où on arrive à l'étape numéro 2. Si l'autre t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors j'aimerais vous dire une chose. Quand vous allez un à un, que vous dites telle autre personne, tu as fait quelque chose qui n'est pas juste. Peut-être que l'autre va vous dire oui, mais toi aussi. Et là, peut-être que ça va être dans les deux sens. Hein. Et ça sera à vous ensemble d'essayer de faire au clair. Peut-être qu'il y aura pardon mutuel, peut-être qu'il y aura une clarification, mais ça sera la première étape. La deuxième étape, c'est si vous vous rendez compte que la personne reste dans le péché et que ça a un impact sur la communauté, dans ce cas-là, vous amenez une ou deux personnes en plus pour confronter ça. Et dans ce cas-là, on avance. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez, il y a une gradation progressive. Pourquoi cette gradation? Parce que plus il y a de personnes qui sont impliquées, plus ça va être difficile, plus ça va être une question de honte, de frustration, et donc pas à pas. Ensuite, une fois qu'on a été à deux, il va y avoir l'étape. Donc, d'abord, va reprendre seul à seul. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux ou trois personnes. Troisième étape, dis-le à l'église, à la communauté. Le péché détruit les communautés. Je ne suis pas en train de dire une petite médisance ou quoi. Si Colline, c'est la dernière fois Colline pour aujourd'hui, détruise, et je suis vraiment à l'aise avec ces exemples parce que tu aides beaucoup pour réparer au contraire. Détruisez les voitures des gens et quand ils se garent, ils mettent pas ses lunettes alors qu'ils doivent et puis ils rentrent dans les voitures et qu'ils disent rien. Et que les gens, il y a des gens nouveaux qui viennent à l'église et puis ils rentrent et ils voient que leur voiture a été cabossée. Ça détruirait la communauté. Je devrais venir voir Colline et lui dire, Colline, soit tu règles ce problème,
mets tes lunettes
et fais attention, soit il va falloir que tu prennes un écart, je dois protéger. La question, c'est protéger la communauté. Protéger la communauté qui est en jeu. D'accord ? Ça peut arriver là, dans certaines situations. Si quelqu'un alcoolique vient à l'église et petit à petit commence à venir avec le Seigneur, ça va très bien. Mais si la personne vient en ayant bu et insulte ou dit du mal de personne et dérange le culte, une personne, en général, là, ça serait le pasteur direct qui devrait y aller avec la personne, ou la personne qui est invitée ou quoi, faire tous ces processus, mais si ça ne changeait pas, dans ce cas-là, on dira à la personne, malheureusement, ce n'est pas possible de venir avec nous, sinon tu vas empêcher la communauté de fonctionner correctement. Hein, vous voyez un petit peu, il y a une question de bon sens, de sagesse, qui est en jeu. Le verset 18 nous dit, on lit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce verset, on l'a déjà vu avant. Vous vous rappelez à qui Jésus l'avait dit ?
Pierre.
À Pierre. Et parfois, on a dit que c'était le pouvoir des clés. Pouvoir des clés. Pierre pouvait ouvrir la porte des cieux ou la fermer. Si Pierre a ce pouvoir, est-ce que les disciples ont ce pouvoir aussi ?
Oui.
Oui, quelque part. Alors, comprenez bien, c'est pas un pouvoir de dire « celui-là, il m'a embêté, donc tu iras en enfer hein. ». C'est l'autorité, quand on cherche la volonté de Dieu, de pouvoir manifester la volonté de Dieu envers quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire si on discerne la volonté de Dieu et qu'on la communique à un autre ? On est quoi ?
Un ange.
Un ange. Le point clé n'est pas du tout de dire « j'ai ma carte du club chrétien, maintenant je peux chasser les autres. Hein ? » Ceux qui ne sont pas et qui viendraient à l'église que j'aime pas trop, chut, du balai. Il y a des fois des églises anciennes qui sont devenues, aux États-Unis j'en avais vu une ou deux, en Suisse il y en avait une ou deux que j'avais, heureusement c'est très minoritaire, où les nouveaux venus ne sont pas bienvenus. Où les gens sont contents, il y a 3, 4, 5 familles, il y a toutes des histoires de familles, mais on ne veut pas d'autres qui rentrent. Et finalement c'est vraiment une anti-église ça. Une église est censée être ouverte et la qualité d'une église s'évalue à la qualité de l'accueil des nouvelles personnes. C'est tout simplement ça. Alors, ce pouvoir de lier et délier, c'est un pouvoir dans la relation avec Dieu. Hein. N'oubliez jamais, pouvoir dans la relation avec Dieu. C'est pas une question d'orgueil, c'est une question de service encore. Pour la communauté. Versets 19 et 20, et là on voit le verset que Marie nous avait mentionné. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si deux ou trois s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si deux ou trois s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas dit si deux ou trois ont envie de faire quelque chose ensemble, alors c'est volonté de Dieu. C'est que si deux ou trois personnes dans la communauté arrivent à se mettre ensemble pour un but, pour quelque chose, en ayant prié Jésus finalement, en ayant prié Dieu, en ayant invité la présence de Dieu et discerné que c'était juste, Jésus est au milieu d'eux. Jésus est vraiment là. Et il y a vraiment la grâce de Dieu. Tout ce texte est par rapport à quoi ? Il est par rapport à la réconciliation. La réconciliation. Ce texte, ce n'est pas une méthode pour chasser les gens, C'est une méthode pour faire tout ce que vous pouvez pour réintégrer les gens tout en protégeant la communauté. C'est tourné vers l'amour et la communauté. Et la fin, c'est ce verset tout simple et si important. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce verset est un des versets qui sont le fondement de la prière. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on prie à plusieurs? Parce que Dieu veut que nous prions. Dieu veut que nous soyons unis dans la prière, particulièrement avec les gens avec lesquels c'est difficile. Malheureusement, nous, on aimerait bien être unis seulement avec les gens avec qui c'est facile. J'aimerais vous dire, quand la vie d'église c'est facile, c'est pas encore là. La vie d'église, c'est quelque chose qui demande un effort d'apprendre à connaître quelqu'un avec une culture différente, avec une façon de penser différente. Et en même temps qu'on se voit, on apprend à se frotter les uns aux autres, on apprend à partager, à s'encourager. S'encourager, ça c'est un point important. Avant de dire les choses qui vont pas chez les autres, comment est-ce qu'on peut encourager telle personne? Et j'inviterai, je dirais, tous ceux qui peuvent, le mardi, on a une réunion de prière. Le but, c'est de se réunir, de prier ensemble, en mettant la parole de Dieu au centre. Parce que si la parole de Dieu n'est pas au milieu de la prière ne sera pas efficace. Donc c'est une façon de s'unir dans l'étude de la parole, qui est Jésus finalement, la parole vivante, pour prier ensemble. Et j'aimerais vous demander, pendant cette semaine, de prier particulièrement par rapport à un sujet. Vous savez que Pierre et Juliette vont se marier. Samedi, au golf du Bassin Bleu, vous avez l'invitation. Je vais vous demander chaque jour, dans la mesure du possible, de prier pour Pierre, pour Juliette et pour leur famille. Pour Dominique, Anise, pour Jean-Claude et Lélette, les parents de Pierre, pour prier pour tout ce temps. C'est des moments importants. Un mariage, dans la foi chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. On ne se marie pas pour dire on va se divorcer dans 2 ans si ça ne va pas. On se marie avec la grâce de Dieu, pour la vie. Mais ça n'est possible qu'avec la grâce de Dieu et de la communauté. Nous avons à être des soutiens pour Pierre et Juliette. Nous avons à prier pour eux. Est-ce que je peux vous demander de prier dans la mesure à 2 ou 3 pendant cette semaine, d'expérimenter la grâce d'être à 2 ou 3. Alors, quand vous commencez à prier à 2 ou 3, on se dit, ah ben c'est super, ça va être très facile. Je vais vous dire, au début, c'est pas facile. De prier, par exemple, avec les enfants, ça sera pas évident. De prier mari et femme, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on a des caractères différents. Il y en a un qui aimerait parler sur ce sujet-là, d'autres qui aimeraient plus être en silence. Et se mettre ensemble dans la prière est d'une importance capitale. Est-ce que je peux vous demander pendant cette semaine, si vous êtes seul, vous priez seul. Si vous pouvez être à 2 ou 3, priez à 2 ou 3. Si vous le pouvez, je vous invite chaque jour à prier, et priez particulièrement pour Pierre et Juliette. C'est important ce qui est en train de ce que eux vont vivre, et nous avons à être un soutien pour eux. Comment nous allons pouvoir être un soutien pour eux? Parce qu'après, il y a tout un combat déjà pour un mariage, pour que ça se passe bien. C'est toute une organisation, une articulation, pour arriver à ce qu'il y ait la paix, la joie, la grâce, et que ce soit une bénédiction pour ceux qui viendront. Est-ce que je peux vous demander ça? Cette prière. Vous y invitez. On va finir et en même temps qu'on finit, j'aimerais vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez entendu, non pas la parole du pasteur, mais le texte biblique, finalement, vivant, je l'espère, à travers l'explication, la prédication, vous rappelez qu'il y a quelque chose où vous devez dire, Seigneur, ok, j'ai appris quelque chose, je vois que où il y a quelque chose à corriger, ou je te remercie pour cette confirmation. 1 minute ensemble, et nous finirons par un mot de prière ensuite. Seigneur, nous ouvrons 7 minutes. Je m'efface. Parce que c'est toi qui es premier, donne à chacun ici présent de pouvoir peut-être te dire un mot, discerner s'il y a quelque chose qui a été partagé aujourd'hui qui s'applique particulièrement à une des personnes, ou à l'un ou à l'autre. Pas se te demander par rapport aux autres, se demander à chacun par rapport à nous. Est-ce qu'il y a quelque chose où on se rend compte que tu nous parles? et que les personnes puissent te répondre. Nous ouvrons ce temps, Seigneur Jésus, et nous t'écoutons. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu vois que chacun d'entre nous, moi compris, nous avons beaucoup à apprendre de ces textes. D'abord par rapport à cette question d'humilité. Comment être humble? Ensuite, comment ne veiller à ne pas causer la chute d'un petit, d'une personne, d'une petite communauté, et au-delà de ça, bien sûr, la chute de personnes autour de nous. Et comment nous détourner de tout ce qui nous entraîne au péché dans nos vies. En même temps, de prendre soin de ceux qui ont pu se détourner, être éloignés de toi, pour les inviter à retrouver la relation, la communion avec toi et avec ton Église, qui est une communauté dans laquelle tu veux que ta grâce règne. Et comment témoigner avec sagesse quand il y a quelque chose qui ne va pas. Merci Seigneur Jésus-Christ, de nous aider à comprendre, à vivre ces textes pour nous, avec simplicité. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, de chacun d'entre nous. Aie pitié de nous en tant que petite communauté. Aide-nous à vivre cela, Maître. Pardon, Seigneur, là où nous manquons, là où nous avons encore à apprendre. Apprends-nous à accueillir mieux. Apprends-nous à aimer toujours mieux, en vérité. Car ta volonté, Seigneur, c'est pas l'hypocrisie, c'est la vérité et l'amour. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous guider en cette semaine. Merci Maître. Amen.